Ou ailleurs que dans une église, est-ce que des personnes se rassemblent pour chanter leur espérance, même lorsque les circonstances de la vie ne sont pas toujours celles qu'on voudrait, comme nous l'a rappelé Thibaut ce matin? Et moi, j'aimerais encore ce matin contempler la beauté de ce que le Seigneur fait dans un groupe comme le nôtre, aussi divers et différents que nous pouvons être, avec des arrière-plans différents, des expériences différentes, mais de pouvoir, à l'occasion d'un culte, avec l'aide de nos frères et sœurs musiciens, chanter ce que le Seigneur a planté dans notre cœur, ce qu'il a fait pousser, et qui aujourd'hui nous pousse tous ensemble à tout simplement chanter du mieux que nous pouvons, mais en nous unissant notre frère et sœur qui est à côté de nous, pour offrir au Seigneur ce magnifique concert. Alors moi j'aimerais vous remercier tous les uns et les autres pour vos voix, pour le fait d'être là ce matin et de pouvoir me faire ce cadeau aussi, de pouvoir chanter avec vous et de célébrer notre Dieu, pour toutes les raisons que nous avons de le célébrer. Et ce matin, il y en aurait certainement des dizaines et des dizaines et des dizaines que nous pourrions mettre en avant. Et ce matin, j'aimerais poursuivre cette étude qui avait été commencée il y a quelques semaines en arrière par Jean-Paul et Philippe sur l'Église, et Pierre et moi aujourd'hui, nous terminerons là-dessus. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais hier, moi j'ai passé la plupart de ma journée dehors, mais aussi dans une jardinerie. Qui est allé dans une jardinerie hier ? Ouais. Ben moi, dans une jardinerie hier, j'en ai encore plein les yeux. De voir la diversité des fleurs, la diversité des arbres, la diversité des fruits. Alors non seulement on les voit en réel, mais on les voit sur les étiquettes, parce que c'est ça qu'il faut les font vendre. Mais j'en ai plein les yeux. Et avec Isabelle, c'était quand même un petit peu dur de se dire on arrête parce qu'on ne va pas trop acheter, parce qu'il faut savoir où on va planter. Puis c'est beau dans une jardinerie, on n'a pas toujours la main verte pour que ce soit beau chez soi. Alors j'ai acheté des rosiers, puis le gars il me dit, surtout vous les mettez en plein soleil, et plus il y a de soleil, plus ça va. Ben zut, moi le seul endroit où j'ai, c'est à l'ombre devant la maison et dans le vent. Mais j'en ai plein les yeux. Et j'en ai plein les yeux aussi parce que hier, je me suis promené dans mon jardin et j'ai 4 ou 5 arbres fruitiers. Et pendant tout l'hiver, j'étais là, je me baladais de temps en temps, slosh, 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 et j'arrivais. Les branches étaient encore vides, etc. et tout. Et hier, sur mon pommier, sur mon cognassier, sur mon pêcher, qui lui a souffert toutes les bises, machin, comme ça et tout, il y a ces bourgeons qui sortent. Et dans quelques semaines, je prendrai mon appareil photo et puis je commencerai à prendre des photos de tout ça. Et c'est là où, de nouveau, j'en ai plein les yeux. Mais figurez-vous que dans la Bible, il y a un certain nombre de thèmes comme ça qui nous sont présentés, où la seule façon de nous les présenter, c'est avec des images. Parce qu'elles sont tellement riches et diverses que Dieu, il a dit, il faut que j'utilise plein d'images différentes. Et vous savez comme moi comment Jésus a utilisé les paraboles pour arriver à communiquer des choses très profondes, pour que ça puisse faire mouche dans le cœur des personnes, mais aussi pour qu'elles puissent se souvenir d'une image. Et repartir en disant, ben c'est ça ce que le Seigneur a voulu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas toujours qu'une seule image qui peut tout dire. Et il a fallu plusieurs paraboles. Ben figurez-vous qu'il en est exactement la même chose de l'Église. Bien sûr, et Philippe s'est attelé à cette tâche-là dans la première des études, c'est arrivé à décrire d'où venait l'Église, ce qu'elle est, quelles sont les différentes idées qui la composent, etc. Mais Philippe, comme les auteurs du Nouveau Testament, est arrivé certainement à un point où il ne pouvait plus simplement avec les mots les décrire et qu'il y a des moments où il faut utiliser des images pour arriver à susciter en nous une certaine compréhension de ce que Dieu a voulu mettre dans l'Église. Et aussi de pouvoir utiliser non seulement notre intellect, mais aussi nos yeux, nos émotions, pour arriver à saisir ce que Dieu a voulu que l'Église soit. Et je vais vous dire, moi j'ai été extrêmement surpris en reprenant ce thème-là, de me rendre compte que le nombre d'images qui sont utilisées pour l'Église, il y en a combien, d'après vous ? Ben, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 10. Alors il y en a certaines dont on se souvient le plus, mais dans la Bible on va trouver des images qui parlent de l'Église en faisant appel à la famille, en faisant appel à la société, en faisant appel à l'agriculture, Ah, je ne sais pas si vous savez quel texte parle de l'agriculture. Pardon ? Il y a entre autres le texte où Paul il dit, moi j'ai planté, les autres ils ont semé, moi j'ai semé, d'autres ont arrosé, d'autres ont moissonné, etc. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et il y a toutes sortes de petites images comme ça que Paul et d'autres vont utiliser pour nous faire comprendre. On parle de l'élevage, le souverain pasteur ou berger, puis toutes les brebis. Pierre, lui, il aime l'architecture et les édifices. Et il va surtout utiliser celle du temple, celle d'un édifice qui est bâti sur cette pierre. Et donc, il y a toute cette diversité d'images qui nous sont données dans la Bible, qu'il nous faut, dans un sens, méditer, parce que c'est comme ça qu'on va découvrir ce qu'est le véritable sens de l'Écriture. Et en fait, l'image sur laquelle moi je voudrais m'arrêter ce matin, ou du moins que nous avons décidé en conseil, qu'on aimerait sur laquelle s'arrêter, c'est celle évidemment du corps. Alors l'image du corps est une image que seul Paul utilise. Il va utiliser 4 fois dans ses épîtres, dans l'épître aux Romains, l'épître aux Corinthiens, aux Colossiens et aux Éphésiens. Et c'est certainement l'une qui est exploitée le plus par l'apôtre Paul, et c'est certainement celle que nous connaissons le mieux aussi lorsque nous parlons de l'Église. L'Église est un corps. Mais j'aimerais tout de suite vous dire, parce que le temps va me manquer si je ne le dis pas tout de suite, et il faut que j'avance, c'est que cette image du corps, chez Paul, il y a 2 idées principales qu'il veut en fait nous enseigner. Donc si vous repartez ce matin avec quelque chose, il y a 2 idées maîtresses derrière celle du corps. D'abord, dans l'épître aux Romains et puis l'épître aux Corinthiens, la première chose qu'il va essayer de communiquer à tous les chrétiens, c'est que l'Église forme un corps. C'est-à-dire que toutes les personnes, pas certaines seulement, pas certaines qui sont mieux qualifiées que d'autres, mais toutes les personnes qui se trouvent dans une église et une église locale aussi, font partie du corps du Seigneur. Et dans ce sens-là, Dieu les a dotées de capacités, mais aussi de rôles et de fonctions, pour que ce corps travaille ensemble. Et comme nous avons cette diversité, cette complexité dans notre propre corps, nous puissions arriver à faire travailler ce corps à la gloire du Seigneur, mais aussi au service des uns et des autres. Ça, c'est la première idée que l'apôtre Paul veut faire passer lorsqu'il parle du corps. C'est qu'il y a cette diversité. Il y a quelque part, quelquefois, les organes les plus nobles et puis les moins nobles, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il dit tout le monde a reçu une fonction, et tout le monde a une place, au point que lorsque le corps est honoré ou le corps est déshonoré, c'est tout ensemble qu'il est honoré ou tout ensemble qu'il est déshonoré. Et ça, c'est la première idée que l'apôtre Paul veut faire passer. La deuxième idée dans l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens est légèrement différente, parce que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre Jésus-Christ et hop, il va mettre Jésus-Christ dans le corps. Et il va dire, dans le corps, il y a une tête, et cette tête qui coordonne tout, c'est Jésus-Christ. Donc 2 idées un petit peu fortes dans la notion de corps et qui doivent nous aider à comprendre un petit peu ce qu'est l'Église. D'abord, c'est une espèce d'unité horizontale et qui fait que l'Église est un organisme vivant. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte d'organisation verticale où l'Église ne peut pas exister si elle n'est pas en lien avec la tête et la tête qui est le Seigneur. Et donc, ce que je voudrais faire donc, ce matin, c'est peut-être aussi décomposer un petit peu ces idées-là et montrer quels sont certains des messages forts que l'apôtre Paul veut aussi faire passer lorsqu'il parle du corps comme un organisme ou lorsqu'il parle de cette unité vite ou cette union vitale qui existe entre le corps et la tête. Et là, je ne vais pas vous apprendre énormément de choses, mais ça vaut la peine quand même de se les rappeler. Mais peut-être les idées auxquelles je viendrai à la fin vous surprendront peut-être un petit peu plus. La première, c'est naturellement que dans notre unité, il y a nécessairement une diversité. C'est la chose la plus inconfortable qui peut exister pour l'homme. C'est d'accepter qu'il y ait des différences pour arriver à une unité plus grande, plus globale encore, plus forte et qui nous sert tous. Il ne peut pas y avoir de corps, il ne peut pas y avoir d'organisme s'il n'y a pas différence des organes, différence des rôles pour arriver à ce qu'elles fonctionnent et tous ensemble pour former cet organisme vivant et extraordinaire que nous sommes. Et je ne suis pas un spécialiste de la main et des doigts, donc je ne peux pas très bien vous dire quelle est la différence entre ces quatre doigts-là, mais je sais bien qu'il y a une différence entre mon pouce et mon index, et ils ne font pas exactement la même chose. Et que si je n'avais pas l'un et l'autre, je serais sérieusement handicapé. Je lisais l'autre jour encore dans l'Ancien Testament, oh la vache, une histoire, un des rois d'Israël qui capture des gens et il leur coupe tous les pouces. J'étais rassuré à paix qu'il avait fait la même chose parce qu'un autre roi avait fait exactement la même chose. Il avait ramené tous ses captifs, il leur avait coupé les pouces et puis il s'amusait à les regarder et essayer de manger. Mais ça vous montre que même dans la main, même dans les doigts, il y a cette diversité, cette complémentarité. Il y a un prof de science qui me disait aussi une fois, la différence entre un singe et nous, il y en avait certainement plus que ça, mais l'une, c'est tout simplement que le singe n'arrive pas exactement à faire ceci. Peut-être le chimpanzé, mais certains singes n'arrivent pas exactement à faire ça. Donc même dans la main, il y a cette diversité et cette complémentarité qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas cinq doigts parce que ça a évolué au hasard des cinq doigts, mais Dieu l'a voulu comme ça. Donc l'unité ne peut pas exister chez l'apôtre Paul et dans l'Église s'il n'y a pas la diversité et la différence. C'est une condition pour qu'il y ait de l'unité. Ce matin, il ne pouvait pas y avoir harmonie dans les accords et dans la musique s'il n'y avait pas différence des notes. On ne peut pas arriver à l'unité sans la diversité, nous dit l'apôtre Paul. Mais la deuxième chose que l'apôtre Paul nous dit, c'est qu'il y a unité dans la diversité. La diversité n'est pas une tare. La diversité n'est pas une faiblesse de l'Église. Nos différences ne sont pas quelque chose que nous devons nécessairement bannir et complètement aliéner pour que nous arrivions tous exactement à la même forme, à la même pensée, au même fonctionnement. Il est possible aujourd'hui, comme dans notre corps, d'avoir un corps harmonieux. Je ne citerai pas le mien, mais quand je regarde des danseurs ou d'autres personnes, ce qu'ils arrivent à faire avec leur corps de façon... C'est absolument effarant. Rémi, lorsqu'il grimpe, etc., et tout, d'arriver à faire un certain nombre de choses dans une paroi verticale, c'est absolument extraordinaire ce qu'on arrive à faire lorsqu'on a la diversité des organes. Rémi ne pourrait pas grimper avec une seule main. Il ne pourrait pas grimper s'il n'avait pas de doigts et pas de pieds. La diversité est quelque chose qui existe, mais l'unité n'est possible que par la diversité. Et c'est ce que l'apôtre Paul va s'étendre dans l'Épître aux Corinthiens à expliquer aux Corinthiens. Vous savez, c'est dans cette épître qu'il leur explique voilà, toute cette diversité. Et ce qu'il a fait déjà plus tôt dans l'Épître, c'est qu'il leur a dit, mais vous avez déjà une diversité de dons et de richesses dans l'Église. Le Seigneur les a mis là pour qu'elles fonctionnent ensemble et que vous soyez un organisme vivant à la gloire du Seigneur et au service des uns et des autres. Et moi, je n'arrive pas à faire autrement que penser à notre propre Église avec toute cette diversité de dons. Même chez nos pianistes, on a des styles différents. Dans votre conseil d'anciens, vous avez un ancien darbiste, vous avez un gars comme moi qui vient de je ne sais pas où, vous avez un baptiste, vous avez etc. Et pourtant, le Seigneur utilise cette diversité dans une unité pour accomplir son œuvre. Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je ne dis pas que le Seigneur pallie à nos différences, il utilise nos différences et nos diversités pour y arriver. Et il a déversé sur l'Église cette multiplicité de dons. Et je crois que chez nous, on pourrait passer notre temps et très facilement à simplement passer en revue tous les dons qui existent dans notre Église. Puis on pourrait vraiment se poser la question, est-ce qu'il nous manque vraiment quelque chose? Bien sûr, on peut toujours trouver ce qui nous manque. Mais je crois qu'on serait très étonné de savoir ce que le Seigneur a déjà donné. Et à quel point nous avons... tellement de dons différents qui ne cherchent qu'à être coordonnés et unis pour avancer et tout cela à la gloire du Seigneur. Et l'apôtre Paul va utiliser des images extrêmement fortes qui parlent aux Corinthiens. Il va leur dire, dans l'Église, il peut y avoir un juif et un païen. Ah non ! Souvenez-vous de l'apôtre Pierre, tout chrétien qu'il était. Mais cette vision qu'il avait eue lorsque il avait vu ces bêtes impures qui descendaient du ciel, et puis le Seigneur qui lui dit, vas-y, tue et mange. Et puis, non, surtout pas, c'est impur, j'ai été élevé comme ça, je ne peux pas. Et parce que le Seigneur avait l'intention d'intégrer à l'Église tout ce qui était païen, tout ce qui était de la pire race qui pouvait exister, dans l'Église, il lui dit, toi ne dis pas ce qui est impur, ce que moi je déclare pur. Et Paul utilise cette phrase extrêmement forte, c'est que dans l'Église, Dieu, Jésus, a voulu rassembler les Juifs et les païens. Et c'est certainement ce qui est le plus scandaleux dans toutes les expressions qu'il va utiliser, parce qu'il va parler de l'homme et de la femme, il va parler des riches et des pauvres, il va des hommes libres et des esclaves. Mais ici, dans l'Église, il a voulu réunir le Juif et le païen. Dans ce qui nous paraît parfois le plus scandaleux et le plus difficile à vivre. Et c'est pour ça qu'il dira que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu un seul esprit. Je passe à la deuxième image, celle du corps dont Christ est la tête. Et ici, peut-être pour mettre directement en perspective, j'aimerais que vous vous souveniez de l'autre image que Jésus lui-même a utilisée, qui traduit exactement la même chose. C'est lorsque Jésus dit « Moi, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. » Ça vous aide peut-être à immédiatement saisir un peu plus ce que l'apôtre Paul avait derrière la tête, bien que l'apôtre Paul ajoute des choses. Mais la première des choses, c'est qu'il y a une union vitale qui existe entre Jésus-Christ et son Église. Il ne peut pas y avoir d'Église indépendamment de Jésus-Christ. Comme il ne peut pas y avoir de sarment qui pousse s'il n'y a pas le cep, qui lui, premièrement, tient tous les sarments ensemble, mais qui en même temps est la source de cette vie par la sève qui va remonter et rentrer dans les sarments. Et ça, c'est la première idée que l'apôtre Paul veut que nous ayons et que nous comprenions, c'est que notre Église ne peut pas exister en autarcie, bien coordonnée, organisée avec ses activités, ses budgets, ses calendriers, etc., si elle n'est pas unie de façon spirituelle et vitale à son Seigneur Jésus-Christ. Et comme tous les sarments sucent la sève qui est dans le cep, il est vital et important que tous les membres de l'Église soient raccrochés dans leur vie spirituelle au Seigneur et pompent du Seigneur cette sève dont ils ont besoin pour ensuite pouvoir former le corps. Et ça, c'est la première idée que l'apôtre Paul, lui, veut aussi transmettre, c'est qu'il y a cette union vitale à Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul va plus loin que simplement, que l'idée de la vie qui est transmise par Jésus-Christ. Et vous savez comme moi que nous ne pouvons pas vivre dans cette Église si nous ne sommes pas reliés à Jésus-Christ. Mais il va rajouter d'autres idées là-dedans. C'est naturellement la suprématie et le fait que Jésus-Christ est le chef. Il faut toujours, même dans notre propre organisation, même avec un conseil d'anciens, même avec des gens qui semblent être plus capables que les autres et qui semblent bien parler, le véritable chef, celui qui doit être écouté parce que c'est lui qui donne la direction et l'instruction, c'est Jésus-Christ. Et là, tout capable ou incapable que nous sommes, tout beau ou pas beau que nous sommes, nous nous rassemblons dans une seule et même chose qui est tout simplement de prendre nos instructions de Jésus-Christ et de suivre notre Seigneur dans la vie de notre Église. Au-dessus de votre conseil d'ancien, il y a Jésus-Christ. Et c'est ensemble avec vous que nous devons l'écouter et savoir où il nous dirige parce que c'est lui qui est notre tête et qui nous conduit. Et ça, c'est certainement l'idée la plus forte aussi que l'apôtre Paul voulait. C'est tout simplement qu'il y a un chef dans l'Église qui est digne de notre louange, mais c'est aussi un chef qui est celui qui nous dirige, qui est le premier à combattre, qui est le premier à nous montrer quel est le chemin. Mais il est tellement uni à nous qu'il est présenté comme la tête de notre corps. Mais maintenant, avant de laisser la place à Pierre, je voudrais aussi faire ressortir quelques petites idées fortes qui me semblent aussi présentes dans ces textes, parce qu'on pourrait les oublier. La première des choses, c'est que lorsque vous relisez ces textes, et surtout celui de l'Épître aux Corinthiens, c'est que la diversité dans l'Église, c'est quelque chose que Dieu a voulu. C'est Dieu qui a planté la diversité. Non pas divisé comme il a fait à Babel, en donnant à chacun une langue, comme ça ils ne pouvaient pas se parler entre eux. Notre diversité n'est pas une tare, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre différence, c'est parce que Dieu a voulu que l'Église soit constituée d'organes différents. Et pour moi, ça signifie que lorsque nous réfléchissons à nos différences et que nous essayons de les pallier, les essayons de les effacer, essayons de les balayer sous la carpette et tout, nous faisons exactement le contraire de ce que le Seigneur voudrait que nous fassions, c'est de trouver dans cette diversité la façon de nous unir pour que nous puissions nous servir les uns les autres et montrer à la lumière du monde que nous sommes un organisme vivant. Il nous faut accepter la diversité, non pas parce que c'est un état de fait et que nous ne pouvons pas faire autrement, mais au contraire, parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu l'a voulu. Il a voulu que les uns et les autres ici viennent d'arrière-plans différents. Ça va être de plus en plus le cas des églises évangéliques. Mais Dieu l'a voulu et ce n'est pas à nous d'aller à l'encontre de son intention délibérée. Et faisons très attention à cette tendance que nous avons tous en tant qu'êtres humains que nous nous rassemblons avec ceux qui nous ressemblons. Et beaucoup d'études ont mis en évidence que des églises s'appauvrissent parce qu'elles finissent par se retrouver uniquement avec les gens qui se ressemblent entre eux. La deuxième idée, c'est qu'en fait, l'unité de l'Église et la coordination n'est possible que parce que tout le monde a signé la même confession de foi et obéissent à leurs anciens. Ça vous fait pas réagir? C'est la plus grosse bêtise qu'on peut dire. C'est la plus grosse des bêtises qu'on peut dire. Et reprenez dans l'Épître aux Corinthiens toutes ces petites phrases qui sont parfois passées sous silence. Mais aujourd'hui, l'unité dans l'Église n'est possible que parce que nous avons tous été baptisés dans le même esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est un projet, c'est quelque chose qui est au démarrage. C'est parce qu'au moment où, lorsque vous êtes repenti, que vous êtes converti, que le Saint-Esprit est entré en vous pour vous habiter, c'est sur ce fondement-là que nous sommes un. Et non pas parce que nous sommes tous des index. Et l'apôtre Paul, dans des petites phrases qui quelquefois sont passées sous silence parce qu'on les oublie et tout ça, mais c'est parce qu'il n'y a qu'un seul esprit, c'est parce que nous avons tous bu de Saint-Esprit que nous pouvons être un. C'est parce que, et il va élaborer ça dans l'Épître aux Éphésiens, nous partageons tous la même espérance que nous pouvons être un. C'est parce que nous regardons tous dans la même direction vers Jésus-Christ que nous pouvons être un. Et non pas parce qu'il faut que j'apprenne à jouer de la musique avec Lydia et qu'elle est meilleure que moi et que moi je suis moins bon. Notre unité nous vient du fait que nous sommes accrochés au même cep et que c'est le même esprit qui vit en nous. Chers amis, aujourd'hui, il y a moins peut-être des choses à apprendre dans ce que je vous ai dit que peut-être des choses à recevoir dans la foi. Parce que vous savez comme moi que la vie de l'Église est extrêmement difficile à vivre souvent et que c'est parce que nous dévions d'un enseignement qui nous est donné. Non pas que nous ne le comprenons pas, mais parce que nous dévions de là. Et pour moi, en travaillant ce texte, je me suis dit, John, il faut que tu reviennes à ces fondements qui se trouvent dans l'Écriture. Et il faut que tu reçoives à nouveau dans la foi ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, nous dit l'Écriture, mais que Dieu avait préparé pour ceux qui l'aiment. Nous devons croire et suivre notre tête, Jésus-Christ, et non pas simplement projeter notre propre projet de l'Église et ce que nous voulons dans l'Église. Nous devons vivre de l'esprit dans lequel nous avons tous été baptisés. Et c'est de là que va découler ensuite notre unité. Nous devons poursuivre la même espérance, qui, elle, est le but final que nous avons. Ce qui compte, c'est ce pourquoi nous vivons et ce en quoi nous espérons. Et tout le reste n'est simplement qu'un moyen pour y arriver. Mais surtout, comme l'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Colossiens, il faut que nous nous revêtions de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et cette image-là, l'apôtre Paul, il va aller, il va dire, ce qui va vraiment ramener toutes les pièces ensemble et les faire travailler ensemble, c'est dès lors que vous vivez de l'esprit et que vous vivez votre diversité dans le lien de l'amour. Mais la dernière chose que j'aimerais, en tant que, pour vous laisser une image et quelque chose de plus visuel, c'est qu'il est presque impossible de parler de l'Église corps de Christ sans penser au sacrifice de Jésus et son corps qui a été brisé pour nous. J'étais surpris dimanche dernier, agréablement surpris dimanche dernier à quel point Jacques Hostie faisait ce lien aussi. Mais si vous avez quelque chose qui devrait vous aider à vivre dans l'Église à un moment ou à un autre, lorsque vous ne trouvez plus les raisons de le faire, c'est peut-être de se dire, derrière le corps de Christ, l'Église corps de Christ, il y a son sacrifice. Il y a son corps qui a été brisé. Et c'est par ce brisement de son propre corps et sa mort et sa résurrection que l'Église a pu naître. Et il y a une expression qui est utilisée dans le livre des Actes. Il parle de l'Église qui a été acquise par le sang de Jésus-Christ. Ainsi donc, chers amis, lorsque nous aurons toutes les raisons d'être insatisfaits, toutes les raisons de vouloir partir, toutes les raisons d'être en colère, toutes les raisons de se sentir plus juste que les autres, toutes les raisons d'être découragé parce que l'Église n'avance pas. Souvenons-nous que Dieu a voulu que l'Église de Préfecin soit là. Dieu a voulu que nous soyons aussi divers que nous le sommes. Et par-dessus tout, l'Église de Préfecin existe aujourd'hui parce qu'il y a un corps qui a été meurtri et sacrifié, c'est le corps de Jésus-Christ. Pierre ?
Que vous êtes beau. Et oui, que l'Église est belle. Non, c'est clair. Vous savez, au début, les premiers chrétiens, ils avaient une habitude, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors ce matin, on va persévérer dans cet enseignement des apôtres. C'est vrai, le temps passe. Mais on sait que c'est un sujet qu'on a à cœur, en tous les cas, nous, dans le Conseil. C'est un sujet qui nous a confronté l'Église, les membres, et je pense que c'est important quand même qu'on se repenche sur cette parole, et que ces différents aspects de cette parole aussi viennent nous éclairer et viennent éclater aussi en gloire et en lumière à nos yeux et à nos oreilles. Et le dernier point que nous aimerions évoquer au sujet de l'Église, c'est le sujet que Paul aborde à Timothée au sujet de l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15 dit « Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et tout au long de cette série, donc, nous avons pu voir comment notre Seigneur a envisagé l'Église, le lieu où il a rassemblé tous les enfants de Dieu rachetés. On le dit souvent, l'Église de Dieu, c'est le lieu du vivre ensemble de ses enfants. Et on l'expérimente fréquemment dans notre communauté, ce n'est pas facile de vivre ensemble. Car justement, on l'a un peu évoqué, nous sommes différents. Nous avons tous des intérêts peut-être différents, qui sont peut-être en fonction aussi de nos dons, de nos ministères. Nous avons tous des sujets, des préoccupations qui sont différentes aussi, qui ne correspondent pas peut-être à ceux et à celles de mon frère, de ma sœur. Et même des fois, on a peut-être des compréhensions, des textes bibliques qui sont différents. Évidemment, on a des efforts à faire pour nous supporter les uns les autres. Néanmoins, nous le vivons tous intensément aujourd'hui. Le résultat n'est pas toujours convaincant à notre perception des choses. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous fait cette promesse. C'est chapitre 18, verset 19. « Je vous dis encore que... si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Or, il y a bien ce terme fort, « s'accordent ». Et nous voyons bien là encore la difficulté que nous avons quelquefois à nous accorder. Ce n'est pas la peine que j'en fasse la démonstration. Pourtant, on a parlé de l'harmonie tout à l'heure, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a reçu dans le conseil, que l'harmonie est belle quand il y a deux, trois, quatre voix différentes qui s'accordent dans une chorale. Ce sont deux, trois, quatre perceptions différentes de la musique ou du morceau qui est joué, qui est chanté. Mais la suite de ce verset, donc, est tout aussi importante, dans le but de demander une chose quelconque. Nous le voyons là, le but de notre accord préalable est de demander une chose quelconque, et non pas de savoir qui détient la vérité. Et la promesse suit immédiatement, cette chose sera accordée par le Père. Et vraiment là, nous sommes ici au centre du combat spirituel tel que nous, la maison de Dieu, est appelée à mener. Oui, la parole de Dieu, et plus particulièrement celle de Paul, nous exhorte à mener le bon combat de la foi. Pas celui contre le sang et la chair, c'est-à-dire contre mes frères ou mes sœurs, ou même avec leur vérité, mais celui directement contre l'ennemi, le diable, et tous ses représentants. Le diable sait très bien ce qui se passe s'il y a des enfants de Dieu qui s'accordent pour demander quelque chose à Dieu. Sa stratégie, elle est dévoilée et surtout sa puissance recule. Voilà pourquoi il cible ses attaques sur l'Église et c'est pour ça encore qu'il est important de se mettre à l'abri au nom du Seigneur. Hein, c'est ainsi qu'il a promis sa présence au milieu d'eux. Au milieu de nous. C'est Matthieu 18, 20 qui dit ça, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Moi, ces paroles de Jésus sont un encouragement. Je reçois ces paroles qu'en mettant la réponse à nos problèmes. Nous le disons souvent, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et c'est justement pour cela qu'il a promis sa présence. Dès que nous sommes ces deux ou trois, moi j'ai longtemps compris ce message, ce passage, par le fait que Jésus était là parce que nous étions deux ou trois d'accord. Que le degré de la présence de Dieu là au milieu de nous était fonction de notre propre capacité à nous entendre. Et je comprends de plus en plus ce passage par le fait que la présence de Jésus nous est indispensable parce que le fait justement que nous sommes deux ou trois, eh bien on n'est pas d'accord. La présence de Dieu c'est une grâce. Et non pas la récompense de notre cordiale entente. Le fait d'être rassemblé en son nom, et non pas au nom de notre accord, au nom de d'un consensus, au nom d'une doctrine, d'être au nom de notre Seigneur Jésus réuni, implique que le Seigneur est là au milieu de nous, entre nous. Et cette présence a pour rôle, entre autres, de nous détourner de nos désaccords pour nous unir à lui, et les uns aux autres. Et tout cela pour que nous tournions vers le Dieu vivant et vrai. Oui, comme les chanteurs d'une chorale se tournent vers leur chef, hein, pour poser leur voix et s'accorder pour chanter ensemble, les enfants de Dieu se tournent vers Christ pour s'accorder. Si l'Église est la maison de Dieu et la colonne et le soutien de la vérité, c'est justement parce qu'elle est posée, elle, d'abord, sur la pierre angulaire qui est Christ. Qui est Christ, qui s'appuie donc sur ce chemin, sur la vérité, sur la vie. Et au sujet de la vérité, moi je suis surpris, quand je lis les évangiles, par le nombre de fois où Jésus répète « en vérité je vous le dis, en vérité je vous le dis, en vérité je vous le dis, et je vous le répète, et en vérité je vous le dis ». Et Jésus est venu dans une période justement où régnait une profonde confusion. Il y avait l'Empire romain, par le brassage des cultures, drainait une quantité de doctrines étrangères. Il y avait chez les Juifs, il y avait les Sadducéens, les Pharisiens, il y avait d'autres sectes. Imaginez-vous un peu toute cette confusion qu'il y avait au temps où Jésus devait se trouver au milieu et il devait essayer un peu d'écouter cela. Et la venue de Jésus, justement, éclaire ces ténèbres. Et en tant que Messie promis, il se présente comme étant la vérité. Ce n'est donc pas étonnant que le diable, lors de l'épisode de la tentation, cherche par trois fois à confondre Jésus-Christ. Et par trois fois, Jésus, en s'appuyant sur la parole de vérité, répond et s'affirme lui comme étant lui la vérité. Plus tard, Jésus, en pensant à tous ses rachetés, ce qu'il allait subir au fil des années, prie en Jean 17 que nous soyons sanctifiés par la vérité, la parole de Dieu étant la vérité. Et plus tard, Jean annonce dans sa première épître, l'Esprit est vérité. Alors, forte de ces deux ressources, la parole et l'Esprit de vérité, et avec pour fondation Christ, quoi de plus normal que l'Église devienne à son tour la colonne et le soutien de la vérité? Est-ce que la confusion règne dans la société? Alléluia, il y a l'Église, colonne et soutien de la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 7 dit « Car le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Ben oui, on en est témoin. Les médias nous montrent toute cette confusion, tout ce désordre, toutes les situations qui ne sont plus sous contrôle. Et Paul précise justement là que la situation est sous contrôle. Tant que le Saint-Esprit est présent par l'Église, l'ensemble des croyants, la situation est sous contrôle. L'Église, comme base de la vérité, joue donc son rôle de modérateur dans ce monde, en opposition à l'œuvre destructrice du mensonge et de la confusion. Voilà pourquoi Paul, encore lui, exhorte les Corinthiens pour que tout se fasse dans l'ordre et avec bienséance. Toutes ces difficultés vraies, toutes ces attitudes vraies sont un témoignage dans notre monde. Et pas seulement pour les hommes qui sont invités à accepter le salut en Christ, mais aussi pour les anges et toutes les principautés et autorités. En effet, c'est par l'Église qu'elles connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est Éphésiens 3, verset 10 qui dit ça. Nous devons vraiment être conscients de cela. Conscient de cette réalité du combat spirituel qui se déroule dans la proximité de l'Église. Car en étant le soutien de la vérité, elle est un obstacle à l'œuvre de l'ennemi qui vient se livrer, c'est-à-dire la confusion dans le message de l'Évangile. Voilà pourquoi il est important de proclamer en assemblée, comme on l'a chanté ce matin, non seulement pour les hommes, mais aussi à tout ce monde des ténèbres, que Christ est vainqueur et que l'Église de Dieu est la colonne et le soutien de la vérité. Est-ce qu'il y a de la confusion dans l'Église? Ben forcément. Pourtant, l'Église est belle. Forcément, puisque de toute façon, il y a ses ennemis qui rôdent. Et par conséquent, l'ivraie a été mélangée à la bonne semence. Mais qu'à cela ne tienne, il y a la parole et l'esprit de vérité. Comme lors des tentations de Christ, c'est typiquement l'œuvre du diable de venir semer la confusion et la division. Mais la vérité est en Christ et se trouve dans la parole et le Saint-Esprit. Oui, l'Église est bien la colonne et l'appui de la vérité. Individuellement, nous n'avons donc pas besoin de nous croire investis d'une mission particulière de défense de la vérité, puisque aucune intelligence humaine, de toute façon, ne peut saisir cette vérité. Simplement, par miracle, la vérité s'appuie sur l'Église des rachetés. Et la vérité n'est pas mieux portée par une Église, parce que nous la pensons, nous, plus fidèle que notre. La vérité est portée par l'ensemble des enfants de Dieu, unis grâce à l'œuvre immense de Christ et du Saint-Esprit. Voilà ce qui fait que l'Église est belle. Cela peut nous arriver à nous d'admirer certaines églises et de voir combien Dieu a béni. Eh bien oui, gloire à Dieu. Oui, peut-être le maître a donné 5 talents à une, 2 ou 1 à d'autres. Et alors, rendons grâce à Dieu pour ces talents qu'il distribue et assurons en tous les cas que chez nous, ici, tout est prévu dans notre communauté pour que tous les talents fructifient. Eh bien oui, peut-être avec notre perception limitée des choses, nous admirons des églises plus talentueuses que celles où le Seigneur nous a placés. Nous aimerions plus d'amour, plus de miracles, plus de manifestations spirituelles. C'est mon cas. Mais j'entends aussi les paroles de notre Seigneur lorsque ses disciples se réjouissaient que les démons leur obéissent. Jésus leur dit, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans les cieux. J'entends ces paroles qui me disent d'être fidèle dans les petites choses et j'en donnerai des plus grandes. La vie chrétienne est trop simple. Pourquoi venir se la compliquer? Mes avis, les pierres qui constituent le temple ne sont pas appelées à surjouer leur rôle. Elles ont été appelées simplement à être à leur place. Dans le ministère et avec les dons que le Saint-Esprit distribue à chacune. Et tout en étant fidèles dans les petites choses, assemblés en son nom, nous sommes appelés à persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est ce que nous faisons encore ce matin. À persévérer dans la communion fraternelle, c'est ce que nous faisons semaine après semaine. À persévérer dans la fraction du pain, c'est ce que nous proposons de faire maintenant. Et dans les prières, c'est ce que nous faisons individuellement, ce que faisons aussi en assemblée. Alors en persévérant plus particulièrement dans la fraction du pain et en partageant la Sainte Cène, justement dimanche dernier, Jacques nous a rappelé les deux aspects du repas du Seigneur. L'attitude vis-à-vis de nos frères et sœurs en discernant le corps de Christ, c'est-à-dire la vérité dans la diversité, comme on l'a dit ce matin, et l'attitude vis-à-vis de notre Sauveur en nous souvenant de sa mort. Voilà pourquoi nous sommes encouragés par le Seigneur à prendre ce repas et en manger tous. Vous savez, il n'y avait pas forcément une grande entente entre les disciples. D'ailleurs, si vous lisez le texte, de suite après, ils se disputent pour savoir qui allait être le plus grand. Seulement, le Seigneur était là. Et c'est lui qui a distribué. Et ce matin, le Seigneur nous dit encore, prenez-en tous. Et moi, je vous propose, on va avec John, on va faire passer ce pain et ce vin, buvez-en tous, réalisez, discernez ce corps de Christ. Ce corps de Christ qui n'est pas seulement notre Église, mais qui est aussi l'ensemble de tous les croyants sur la surface de la terre. Et la vérité éclate aux yeux de tous, et c'est ce que nous voulons proclamer ici, que la vérité éclate aux yeux de tous, hommes, principautés, autorités. Je prierai pour le pain.
Ah oui Seigneur, quand nous voyons un peu la globalité de ton œuvre, de voir, c'est vrai que tu t'appuies sur nous, des hommes, avec autant d'imperfections, autant de difficultés à communiquer entre nous, de nous entendre. Eh bien toi, tu bâtis ton Église avec de tels éléments de corps, avec telle pierre. Et toi, tu veux chaque fois justement, tu es là et tu as promis cette présence parce que nous sommes totalement appuyés sur toi. Nous voyons que nous n'avons pas de capacité à nous entendre par notre propre force. Et justement, ce pain nous montre cela. Il a été rompu. Et le fait que ce pain est rompu montre aussi que il y a plusieurs. Et nous voulons partager ainsi ce pain, en souvenir de ce que tu as fait, aussi de ce corps qui a été meurtri, ton corps qui a souffert sur la croix aussi. Et tout cela nous parle de ton œuvre immense à la croix, et nous nous en souvenons encore ce matin. Sois loué, Seigneur. Amen.
Et Seigneur, en prenant cette coupe et en buvant ce vin, nous voulons aussi, Seigneur, penser au prix immense que tu as payé pour nous racheter, mais aussi pour te constituer ton Église. Et Seigneur, nous ne voulons pas mépriser ton œuvre. Et nous voulons, Seigneur, emboîter le pas, Seigneur, avec toi, en sachant que toi, tu vas faire paraître cette Église et notre Église ici, Seigneur, belle, sans tache ni ride, au jour de ton retour. Et Seigneur, nous savons que cette œuvre, tu l'as commencée maintenant parmi nous et que tu la rendras parfaite. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons prendre cette coupe en nous souvenant de à quel prix tu as entamé ce projet. Et Seigneur, c'est avec un profond respect et une profonde reconnaissance que nous voulons te suivre, toi notre chef. Au nom de Jésus, amen.
J'aimerais partager avec vous les annonces concernant la vie de l'Église cette semaine. Merci, Clément. Lundi, 19h30, conseil. Mardi, 16h, études bibliques des aînés. Qu'est-ce que j'ai dit ? 16 heures.
16
heures.
Non, non.
Oh
là
là là là. C'est en parenthèse, c'est qu'il y a les deux. C'est juste ça. Enfin. Merci pour ceux qui tapent les annonces. C'est aussi un petit boulot, hein. Taper les annonces, de taper les textes des chants. Alors, il y a des fois des petites fautes d'orthographe, mais on essaye de les reprendre régulièrement et de les remettre. Alors, si vous en voyez une qu'on n'a pas vue, vous pouvez toujours le dire. Mais merci à ceux qui prennent le temps de taper ça. C'est aussi du temps et du boulot. Donc, je reprends. Jeudi, 18h, la pastorale. Samedi, groupe de jeunes. Dimanche, pour ceux qui ont du mal à se réveiller le matin, 9h30, le café au sous-sol. C'est super pour se réveiller. Après, vous êtes en pleine forme pour le culte. Et 10h, notre culte. Voilà pour cette semaine. J'ai rien oublié pour cette semaine ? Ok, merci. J'avance d'une semaine, on avance d'une semaine. Clément, si tu veux mettre la dernière page. Le mardi 23 à 20h, le conseil d'anciens vous invite à réserver la date du 23 avril à 20h pour participer à une réunion de membres où la présence de chacun est vivement souhaitée. Le conseil vous fera part lors de cette soirée d'une communication importante concernant la vie de l'Église. Merci à chacun de bien vouloir faire le nécessaire pour être présent ce soir-là. Voilà. Et puis, on va passer à d'autres choses. On a entendu déjà une voix qu'on n'entendait plus depuis quelque temps, qui est, si je dis ma petite sœur, juste elle va savoir qui c'est. Anne-Laure nous a rejoint. On est super content de te voir, Anne-Laure. Ça nous fait plaisir. Dire que tu nous as manqué, c'est peu. Ouais. Merci d'être là et de partager ce temps avec nous. On se réjouit en tout cas de te revoir. On retrouve aussi Anne-Lise ce matin. Un petit peu cabossée, c'est vrai. Elle voudrait nous dire un petit mot lors de l'avenir. Anne-Lise va bien, mais c'est pas facile. Elle a perdu l'activité d'un œil, donc c'est pas non plus évident. Elle peut plus conduire, et on veut continuer à prier pour elle aussi. Tu voulais juste dire un petit mot, Anne-Lise, tu m'as dit.
Ne croyez pas que je suis complètement découragée, bien au contraire. Hein. Mais je veux dire qu'au quotidien, c'est un peu difficile parce que vous versez de l'eau dans un verre, vous versez forcément de côté parce qu'avec un œil, ça ne va pas, bon, bref. Mais j'ai vraiment confiance, et je voudrais juste vous confier quelque chose, une expérience que j'ai eue tout à fait au début. Ça fait exactement 3 semaines, aujourd'hui, que j'ai arrivé le matin. Je regardais la Bible ouverte, ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça, sur le Seder, donc le dernier repas des Juifs avant de partir dans le désert. Et c'était très intéressant pour moi. Et je fermais les yeux pendant quelques secondes, et quand c'est ouvert les yeux de nouveau, je dis, ah, j'ai un cheveu dans mon œil. Et j'ai essayé, non, ce n'était pas ça. Je dis, oh, c'est le soleil, ça doit être ça. Sinon, je vois toujours rien. Et finalement, je suis allée à la salle de bain pour regarder si j'étais comme ça ou de l'autre côté. Je dis non, tout va bien. L'œil n'était même pas rouge. Je dis bon, c'est peut-être pas un décollement de la rétine, ça pourrait être un AVC, mais ça m'étonne parce qu'il n'y a absolument pas de paralysie ni rien. Alors, je dis bon, j'ai regardé le reste de l'émission et je suis partie à l'église. Mais conduire avec un œil, c'est un peu compliqué. Alors finalement, je suis retrouvée chez moi et puis j'ai téléphoné à ma fille. C'est eux qui m'ont amené en urgence en ophtalmologie. Bon. Après les examens, on a découvert qu'effectivement, c'était ça. Un petit AVC qui a touché le nerf optique de mon œil, donc c'était entièrement aveugle. Et puis, mais c'était curieux parce qu'avant de partir de la maison, les seules personnes dont je savais qu'ils n'allaient pas à l'église ce jour-là, c'était Madeleine et Pierrot parce qu'elles préparaient son opération. Et j'ai dû le téléphoner, donc c'était les seules personnes parmi mes amis chrétiens qui étaient au courant du fait que quelque chose n'allait pas. Et pourtant, quand je suis réveillée, alors, après l'ophtalmologie, dit vite à l'hôpital, urgence, on téléphonera tout de suite, tout ça. Effectivement, j'ai été prise en charge immédiatement. Et dans le scanner qui a suivi, c'est là, c'était le paradis. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, si ça, le paradis, je voulais rester dans ce scanner. C'est tellement merveilleux. Mais c'est incroyable que je ne suis pas portée par une vraie armée de chrétiens. Il n'y a que Madeleine et Pierrot qui n'avaient pas eu le temps de téléphoner que ce soit avant le culte. Mais il n'y a que toi et moi. C'est toi qui prends soin de moi de cette façon extraordinaire. Mais c'était tellement heureuse, tellement confiance, sereine, pleine de paix. Je me dis, mais Seigneur, c'est extraordinaire, vraiment. Après cela, bon, on m'a fait une sorte de goutte à goutte. Et l'ophtalmologue m'a dit, écoutez, on pense que ça va réussir, ça va vous redonner la vue. Alors il venait tout le temps. Est-ce que vous, non, je ne voyais toujours rien. À la fin des 20 minutes, il m'a dit, vous ne voyez toujours rien. J'ai dit, non, je ne vois rien. Il m'a dit, mais vous savez, ça n'a pas réussi cette fois-ci, mais certainement qu'une autre fois. Et là, j'ai dit, vous savez, docteur, peut-être que les médecins ne réussissent pas, mais moi, je connais quelqu'un, et c'est Dieu. Et ce Dieu, il est le docteur des docteurs. Et quoi qu'il arrive, il peut me guérir. Pas maintenant, peut-être, mais plus tard, je ne sais pas. Mais j'ai confiance, je me dis, vous avez raison. Et alors, voilà, j'étais donc amenée dans le service de neurologie pendant 2 semaines et demie avec un tas de tests. Ça, c'est simplement un prélèvement qu'on a fait de mon artère optique, qui se trouvait qu'il n'y avait rien. Alors, on ne sait toujours pas, on pense que c'est le cœur qui est très jeune, mais enfin, tout de même, je ne sais pas. Alors, bon, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup pour vos prières. Lorsque vous l'avez su, et pour la très gentille carte de vraiment pleine d'amour, d'affection du groupe des dames, ça m'a vraiment fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Mais vous savez, je suis tellement confiante et tellement heureuse dans tout cela que ça va aller, il n'y a pas de problème.
Voilà, on va continuer à prier aussi pour Annelise, continuer à prier aussi pour Madeleine, qui est toujours en Haute-Savoie, pour la rééducation aussi. On veut aussi prier pour que Dieu la garde aussi. J'ai encore 2 annonces à faire. On a reçu une carte du mariage de Noëlla et Jean-Philippe, qui aura lieu dans 15 jours. Je mets la carte au fond, pouvez-vous vous rendre compte. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La maison, c'est une petite partie de l'Église. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24-15. On veut se réjouir aussi pour ce mariage. Je pense que ce serait bien que dimanche prochain, on signe une grande carte tous pour envoyer à Noëlla et Jean-Philippe. Ça serait peut-être sympa. Et puis, donc, on a vu que ce matin, il y avait beaucoup de personnes qui allaient dans les jardineries, mais je pense que vous avez le temps encore le soir pour faire des mots croisés. Alors, je propose des mots croisés qui sont en vente à la librairie. C'est un petit carnet de mots croisés, notre mémoire biblique. Cultivons notre mémoire biblique. Ça fait bosser un petit peu. Et puis une partie, enfin, je ne sais pas quel pourcentage, mais en tout cas, une grande partie va pour des orphelinats dans le monde entier. Donc, vous faites une double bonne œuvre pour vous parce que vous cultivez votre mémoire biblique. Et puis, vous faites un petit geste aussi pour les orphelinats. Voilà. Je vous invite à vous lever. Je vous lirai encore juste. On a beaucoup parlé de l'apôtre Paul ce matin et du souci de l'apôtre Paul pour l'Église. Et dans toutes les premières versets des épîtres de Paul, il y a toujours des enseignements qui sont très chaleureux. Et dans la première épître, justement, de Paul aux Corinthiens, une Église qui avait des soucis, qui avait des gros problèmes, qui était aussi divisée, c'est vrai, Paul écrit... à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, c'était il y a 2000 et quelques années, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.